Alors, je vais d'abord passer la parole à Hélène de Lima Duterrier, qui est membre école de l'EPFCL France, psychanalyste à Maison Alfort, et qui a donné comme un titre très proustien, Du côté de chez Hans. Je lui passe la parole, Hélène. À vous.
Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, pour notre séminaire du champ lacanien, il nous a été demandé de travailler à partir de l'idée de ce qui nous tombe dessus sur le thème de la menace imaginaire et de la perte réelle. Pour tenter d'aborder ce thème que j'ai trouvé bien difficile, j'ai choisi d'axer mon travail du côté de la menace imaginaire en parlant de la phobie, cette manifestation symptomatique qui semble survenir subitement, tomber sur le sujet de façon irrationnelle, de l'ordre d'une menace qui se situe du côté de l'imaginaire. En suivant Freud et Lacan, nous allons voir avec la phobie du petit Hans la façon dont cette menace se constitue alors qu'il lui tombe dessus quelque chose de la sexualité. La phobie est définie dans les dictionnaires comme une peur démesurée, dépendant d'un ressenti plutôt que d'une cause rationnelle, d'un objet ou d'une situation précise. Attaque de panique devant un objet, un animal, un aménagement particulier de l'espace qui joue comme signaux d'angoisse. Avec la psychanalyse, la phobie apparaît comme donnant de la matérialité à l'angoisse interne sur un danger extérieur, permettant ainsi au sujet une certaine maîtrise de cette angoisse en ayant la possibilité d'éviter l'objet phobogène. La dimension du voir et de l'espace tient une place prépondérante dans le processus de la phobie. L'objet phobogène étant en lui-même un élément qui vient faire limite dans l'espace. Lacan disait que la vraie fonction de la phobie est de substituer à l'objet de l'angoisse un signifiant qui fait peur. Car au regard de l'énigme de l'angoisse, la relation signalée de danger est rassurante. Charles Mellman parlait de maladie de l'imaginaire. L'imaginaire que Lacan lie intrinsèquement avec le réel et le symbolique, et de ces trois catégories, celui qui procède de l'image du corps. Le registre imaginaire est à entendre à partir de l'image, du côté du leurre, de la projection imaginaire dans la relation intersubjective et des identifications. C'est ce que nous allons voir, pouvoir observer chez Hans. Hans aura bientôt 5 ans lorsqu'apparaît son trouble phobique, qui très rapidement va le mettre en difficulté pour sortir de chez lui. En effet, Hans a peur d'être mordu par un cheval. Il vit avec ses parents en face d'un entrepôt de marchandises où circulent des voitures à cheval à longueur de journée. Le petit garçon est très apeuré au moment de sortir de chez lui, réclamant à chaque fois un câlin à sa mère, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sortir du tout, même avec elle. Il manifeste également le soir une très grande crainte que le cheval n'entre dans sa chambre. À cela s'ajoute une angoisse importante chez l'enfant de perdre sa mère. Il fait des cauchemars où elle est partie et ne peut plus faire câlin avec elle. Le récit de Freud nous montre que les motifs de la peur du cheval vont évoluer et vont avoir plusieurs origines au fur et à mesure que l'analyse de Hans avance. S'il y avait des signes antérieurs, l'éclosion de la maladie, pour reprendre le terme utilisé par Freud, remonterait à une promenade avec sa mère où Hans aurait vu un cheval d'omnibus tomber et donner des coups de pied en tous sens, faisant un grand charivari. Hans a cru le cheval mort. L'événement en lui-même n'apparaît pas comme traumatisant, mais il a une teneur particulière parce que le cheval est déjà un objet de prédilection pour l'enfant. Et cette scène vient en écho avec une autre scène où un camarade de vacances se blesse en tombant d'un cheval quelques mois plus tôt. L'analyse révélera que cela a produit chez lui cette pensée bien vite refoulée du désir que ce soit son père qui tombe et meure. Ainsi, il pourrait jouir de sa mère sans obstacle. Lacan dira que le symptôme trouve son origine dans la rencontre du sujet avec la réalité sexuelle. Il est notable que dès le début du trouble phobique, le père a l'intuition que c'est lié à la relation de l'enfant avec sa mère. Sans doute, dit-il, le terrain a-t-il été préparé de par une trop grande excitation sexuelle due à la tendresse de la mère. Les parents ont noté avant la survenue de la phobie que l'enfant était très occupé avec les questions du vivi ma chère, les faits pipi, le sien et celui des êtres vivants en général. Il se questionnait également sur la taille de celui de sa mère, qui devait bien être aussi grand que celui d'un cheval, en contraste avec celui de sa petite sœur, pas encore visible. Hans a une prédilection particulière pour le cheval, parce que c'est un animal qui fait partie de son environnement quotidien et que très vite, il va montrer un intérêt prononcé pour le fait pipi du cheval. Comme je l'ai déjà indiqué, il y avait des chevaux qui circulaient devant chez lui, mais également sur son lieu de vacances où il passait beaucoup de temps avec d'autres enfants, en particulier avec des petites filles avec lesquelles il a eu des jeux de toucher et de regard autour du fait pipi. Et c'est aussi pendant ces vacances-là que l'enfant avait eu des moments privilégiés avec sa mère, en l'absence du père. Freud va faire l'hypothèse que l'excitation sexuelle et la masturbation du petit garçon s'étaient amplifiées à ce moment-là. On sait aussi que, plus jeune, Hans jouait au cheval avec son père. Freud note que peu de temps avant la survenue de la peur du cheval dans la rue, Hans a fait deux tentatives de séduction auprès de sa mère, consistant à lui vanter son pénis. Ce à quoi la mère semble ne pas y avoir fait cas. Pas grand cas. Dans son séminaire sur la relation d'objet, Lacan va beaucoup insister sur la position de l'heure de l'enfant à l'égard de sa mère. L'enfant s'essaye auprès de la mère dans le jeu de l'intersubjectivité à capter ses partenaires, en particulier avec le phallus imaginaire. Hans tente de satisfaire sa mère, de la combler en lui offrant l'objet de satisfaction. Il y a deux événements qui interviennent pour Hans dans sa relation avec sa mère. Il y a la naissance de sa petite sœur qui vient faire obstacle à son exclusivité auprès d'elle, mais il y a autre chose qui va changer pour lui. Son pénis commence à bouger. C'est là que Lacan situe le début de l'angoisse pour le petit garçon. Il indique que ce qui est en jeu avec son vivi, ma chère, c'est la survenue de ses premières érections et avec elle de la jouissance sexuelle qui s'introduit dans le circuit, c'est-à-dire dans le jeu de sa vie psychique. Le pénis est devenu réel. Lacan voit dans cette survenue de la jouissance de l'organe une cause de la phobie. Il dit, chez certains, la rencontre avec leur propre érection n'est pas du tout auto-érotique. Elle est ce qu'il y a de plus hétéro. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'image de ce cheval qui piaffe, tombe, glisse, va et vient est à l'image de ce à quoi Hans se confronte et au fait qu'il n'y comprend rien. La jouissance qui est résultée de ce vivi ma chère lui est étrangère au point d'être au principe de sa phobie. Phobie veut dire qu'il en a la trouille. Lorsque Hans tente de séduire sa mère avec son pénis, il est mis au point de rencontre de la pulsion réelle et du jeu imaginaire du leurre phallique par rapport à sa mère. C'est lorsqu'il prend conscience qu'il n'a pas ce qu'il faut que tout bascule, que ça lui tombe dessus, parce qu'il devient alors la proie des significations de l'autre. La mère n'est pas intéressée. Ce n'est pas cela. Que veut-elle? Nous voyons ici que ce qui déclenche la phobie du petit Hans, c'est le moment où sa jouissance, qui jusqu'alors ne lui posait pas de problème, vient se confronter à la réalité de ce qu'il est pour sa mère. Le leurre imaginaire tombe, et c'est alors le regard et le désir de l'autre qui s'imposent. Nous retrouvons très bien cela dans le cas de la phobie des poules présentée par Helen Deutsch. L'enfant pour qui les poules avaient joué un rôle important dans son rapport au désir érotique qu'il avait à l'égard de sa mère développera une phobie des poules après que son frère aîné l'ait contraint dans un jeu de corps érotisé accompagné d'une phrase « Je suis le coq ». Tuer la poule. L'irruption et la nomination de la jouissance de cet autre va venir modifier, l'éjecter de ce qui jusqu'alors se tenait du côté de l'imaginaire, du leurre auprès de sa mère. Cela va provoquer un débordement pulsionnel du côté de l'hétéro, impossible à intégrer, qui va provoquer un rejet vers l'extérieur qui sera signifié dans la poule, cet objet de prédilection, et déclencher la phobie. Mais pourquoi ces enfants-là ont-ils recours à la phobie? Alors que, comme le souligne Lacan, il y a manifestement dans le passé des enfants, en général, dans leur vécu et leur développement, un élément fort difficile à intégrer, sans que cela produise une phobie. Il fait référence ici à ce que produit la nouveauté du pénis réel, donc de la jouissance de l'organe. Lacan s'accorde avec Freud pour dire que la peur dans la phobie est distincte de l'angoisse. Il indique que la peur concerne toujours quelque chose de nommable, d'articulable, de réel. Avec la phobie, le monde extérieur se ponctue de points dangereux qui se structurent et font fonction d'un intérieur et d'un extérieur. Il dit, jusque-là, l'enfant était en somme à l'intérieur de sa mère, il vient d'en être rejeté, il est dans l'angoisse, et le voilà qui, à l'aide de la phobie, instaure un nouvel ordre, une série de seuils qui se mettent à structurer le monde. Le recours à la phobie apparaît pour Hans comme un moyen pour parer au débordement pulsionnel et à l'angoisse que produit le désintérêt, le rejet de la mère et ce que cela vient signifier de la réalité du phallus. L'objet phobique vient en position tierce. Hans semble avoir recours à cet objet extérieur comme dans une fonction de suppléance à la fonction paternelle. Il trouve, avec la phobie, une issue à l'impasse dans laquelle le laisse l'autre face à la menace de castration et à la dimension symbolique qu'il n'a pas les moyens de surmonter. La question autour de ce qui tient à la fonction paternelle apparaît dès le début de la présentation du cas de petit Hans. Freud indique: les parents étaient d'accord pour élever leur enfant sans plus de contraintes qu'il n'était absolument nécessaire pour le maintien d'une bonne conduite. Il termine sa présentation du petit Hans sur ces lignes. Il était élevé, loin de toute intimidation. Son angoisse a osé se montrer plus hardiment que chez d'autres. Une mauvaise conscience et la peur des punitions lui manquaient à diminuer l'angoisse. Freud relève: bien souvent, le père va laisser l'enfant et la mère se retrouver dans le lit parental sans plus de protestation, soulignant ainsi que les positionnements du père visant à l'interdiction de l'enfant de jouir de sa mère et à la mère de jouir de son fils sont trop faibles. Les menaces du père, qui en quelque sorte restent à l'état de menaces imaginaires, sont peu opérantes à la restriction de la jouissance. Ça manque du côté de la fonction symbolique et de l'interdit. Le complexe de castration ne s'organise pas. La première dialectique symbolique pour l'enfant est celle de la présence ou de l'absence de la mère, mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans l'ordre de la loi symbolique. Il faut qu'il y ait de l'autre. Lacan dit: le petit criminel, c'est par la voie du crime imaginaire qu'il entre dans l'ordre de la loi. Mais pour cela, il faut quelqu'un de réel en face, quelqu'un qui répond. Il insistera lui aussi sur les manquements du père de Hans, même s'il fera l'hypothèse que la présence active du père à travers l'analyse qu'il va mener auprès de son fils aura des effets plutôt fructueux et aidera l'enfant à construire un fantasme de résolution. Lacan dit de la phobie: c'est à savoir ce qui se joue à chaque instant à la limite, sur la frontière entre l'imaginaire et le symbolique. Pour conclure, cet exposé ne retrace qu'une partie de ce qui est abordé autour de ce cas de phobie du petit Hans par Freud et par Lacan. Il s'agit essentiellement de relever en quoi la phobie est une façon de suppléer à ce qui manque du côté du symbolique pour faire face au réel de la pulsion et au désir de l'autre qui tombe sur le sujet sans qu'il ait les moyens de les intégrer. La parole, qui est restée à l'état de menace imaginaire, n'a pas trouvé toute son efficacité à la mise en place du complexe de castration et en même temps à la perte de jouissance qui s'y opère, qui, elle, se situe du côté de la perte réelle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Hélène, pour cette intervention.